Voilà. Tout à fait. C'est l'industrie. Effectivement, comment nos ancêtres donc, ont réalisé la montée en puissance industrielle pour arriver à fabriquer 52 000 et quelques avions pendant cette Deuxième Guerre mondiale et aussi plus de 3,5 milliards de cartouches. Ah tiens, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, non, mais les cartouches, on les laisse de côté. C'est les avions qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, nous allons commencer dans un premier temps sur justement l'organisation technique et industrielle qui a été mise en place, et notamment notre grand ancien Albert Cacot, dont le capitaine Champenois, lui aussi docteur en histoire et travaillant au service historique de la défense, a fait le déplacement de Paris pour venir nous parler. Alors, je lui cède tout de suite la parole.
Tu coupes non seulement le micro, mais le fil aussi. Oui, oui.
Bonjour à tous, je crois que vous le fond, c'est bon. Bonjour à tous, je remercie la ville de Toulouse et l'AHR et HEDN de m'avoir associé à cet événement. Voilà, donc, je n'ai pas été retenu par les grèves ce matin, même si je suis venu en train. Donc, Toulouse réunit deux de mes passions, c'est-à-dire le rugby et l'aviation. Voilà. Donc, je suis content de pouvoir être associé à cet événement. Et donc je remercie l'organisateur principal. Alors, il parlait du grand ancien, je me demandais si c'était moi. Alors, c'est Albert Cacot, donc je vais vous parler de ce personnage. Alors, c'est une biographie, mais je vais me centraliser sur la période de 14-18 par rapport au sujet. Voilà, donc Albert Cacot est un ingénieur, donc l'armée de l'air est une armée technicienne. Donc moi je porte des lunettes, j'ai une formation universitaire sciences humaines, donc je ne peux pas être pilote. Donc c'est plutôt une formation scientifique. Donc il a fait polytechnique. Alors je vous parle d'abord de la genèse avant 14, donc la première partie. Ensuite, donc, son expérience militaire. Il débute la guerre en étant capitaine aérostier, il est mobilisé en 1914. Il sera commandant en 1918. Et ensuite, 1918, dernière année de la guerre, il est appelé à de très hautes responsabilités à 36 ans. Il devient directeur de la section technique de l'aéronautique. Voilà. Donc en histoire, on aime bien les plans en trois parties et avec la symétrie, trois sous-parties. Voilà. Donc c'est un plan qui va être déroulé au fur et à mesure, donc à peu près 3 minutes par sous-partie. Donc c'est d'abord un intérêt profond pour l'aéronautique. On peut se demander comment Albert Cacot découvre et s'investit dans ce domaine. Au départ, sa formation ne le prédispose pas à troisième dimension. Voilà, donc il entre à l'école polytechnique en 1899, il a 18 ans. Donc il est doté d'une grande facilité d'assimilation, il saisit les données réelles, les problèmes techniques pour les résoudre. Voilà. Donc il veut résoudre les problèmes en les comprenant bien. Il fait un service militaire en 1901 à 1902. Il est envoyé au régiment du génie. Au début du XXe siècle, vous avez deux armes de l'armée, donc c'est-à-dire de l'armée de terre, qui s'intéressent au plus léger que l'air, puis après au développement du plus lourd que l'air, c'est le génie et l'artillerie. L'artillerie, ça fait en utilisant un ballon, vous prenez de l'altitude et vous pouvez régler les tirs d'avion artillerie, car vous voyez où se tombent les obus. Et le génie, c'est plutôt pour l'infrastructure et pouvoir reconnaître où se trouve l'adversaire en faisant de l'observation ou de la reconnaissance. Donc il est envoyé à Chalais-Meudon, en précipité de la région parisienne, et depuis à peu près les années 1870, vous avez l'armée qui a développé un centre de recherche avec les ballons, puis après avec l'aviation. Donc il découvre des ballons sphériques, captifs, ils sont reliés au sol, ils ont été développés par le colonel Charles Renard, qui comme Clément Adair et comme le capitaine Ferber, fait partie des personnes qui essaient de développer les potentiels militaires de l'aérostation. Donc lorsqu'il arrive donc en 1901-1902, il découvre ces ballons qui n'ont pas tellement été modifiés depuis la bataille de Fleurus. Donc c'est des ballons gonflés à hydrogène qui sont reliés au sol. Donc là c'est un modèle comme on peut voir en 1914 à la mobilisation de la guerre. Donc Albert Cacot est assez étonné, il constate que les techniques aéronautiques n'ont pas tellement évolué depuis l'origine. Après son service militaire, donc de 1902 à 1905, pendant 3 années, il est élève ingénieur à l'École nationale des ponts et chaussées. Et là, il découvre vraiment sa vocation pour la construction. Donc, la construction avec des ouvrages en béton armé, en partie avec des ponts. Donc là, une des spécificités d'Albert Placot, c'est qu'il va, durant sa carrière, s'intéresser à deux domaines qui n'ont au départ pas forcément un rapport. Donc la réalisation d'ouvrages en béton armé, les constructions aéronautiques. En même s'il y a un lien entre les deux, donc on le voit aussi avec les biplans, donc les appareils qui ont deux paires d'ailes. Pendant les débuts de l'aéronautique, certains ont développé le format de ces ailes à partir de la structure des ponts. Ainsi, ça permettait d'avoir une structure à la fois rigide, assez légère, pour pouvoir permettre à un avion de voler par rapport au monoplan. Donc quelques années après, en 1911, il présente un mémoire sur la locomotion aérienne et l'utilisation probable dans l'avenir. Et là, un peu comme Clément Ader, il est assez visionnaire, il fait en quelque sorte de la prospective de la vieille technologie, qui voit quelles sont les capacités à l'époque de la technologie, et essaie d'anticiper sur leur capacité. Donc il écrit un texte qui présente, alors il parle de développement des aérodromes, et aussi il parle de notions qui à l'époque sont totalement futuristes, on pourrait penser à science-fiction. Il a une sorte de prémission par rapport au radar et à l'utilisation future du GPS. Donc je le cite. Parallèlement au développement des ports, la technique du point en aéroplane devra se préciser. Dès que le navire aérien disparaît dans les nuages, le mécanicien conduit à l'aveuglette et ne peut s'en remettre qu'aux indications très insuffisantes de la boussole. Là encore, il faudra créer des organes nouveaux, comme des phares hertziens, qui puissent agir sur les récepteurs de télégraphie sans fil et renseigner le pilote sur sa position. Sans ses ports et sans ses phares, le navire aérien ne pourra sortir que de jour et par beau temps, et ne pourra donc assurer aucun service régulier. Ainsi, en 1911, il anticipe, par exemple, sur les développements technologiques opérés par les Britanniques en 1937, qui vont participer à leur victoire durant la bataille d'Angleterre en 1940. Alors ça, c'était la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Donc, il est mobilisé en 1914. Alors non, il a plus l'âge de combattre en première ligne. Le 1er août 1914, donc c'est la mobilisation, vous avez pu voir l'affiche de mobilisation générale montrée par Gaëtan Sicot. Donc il est capitaine à la 21e compagnie de rotation. Là, vous le voyez en photo, donc on est en 1918, il est commandant. Capitaine d'officier subalterne, comme moi, et après vous êtes commandant, vous passez dans la caste d'officier supérieur. Donc il est mobilisé, il est envoyé au combat devant ses hommes, il participe au combat sur le front de Lorraine, donc j'ai acquis sur lui, déjà une performance pendant les deux premiers mois de conflit. Et là, il s'aperçoit que les matériels confrontés à la réalité du terrain ont des carences qui manquent d'initiative. Donc ces carences ont des conséquences sur le déroulement de mission. Alors pour les carences pour les missions, il s'aperçoit que les ballons français captifs ne sont pas stables. À partir à peu près d'un vent de 8 mètres secondes, le ballon doit être frappé au sol. Donc vous avez le ballon qui est instable, il est agité dans l'air tel une bouée, et vous avez l'observateur qui est totalement secoué, qui a gère le mal de mer, le mal de l'air, et notamment il vomit et il ne peut plus remplir à bien sa mission. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à se concentrer pour pouvoir voir l'objectif des photographes. Donc le manque déficient du matériel a des conséquences sur le côté opération. Et là il s'aperçoit que le ballon allemand, le Draken, lui, il a une forme fuselée, allongée, peut-être un peu dérivée des zeppelins. Cette forme lui permet de mieux tenir l'atmosphère. Il n'est plus une bouée, par exemple, qui est agitée sur lui. Et là, le ballon allemand peut tenir une mission dans le vent jusqu'à 14 mètres secondes, quasiment le double des Français. Voilà. Et là, il se dit qu'il faut copier les Allemands, donc étant copie de l'ennemi pour pouvoir le battre, il développe un ballon. Donc il décide de concevoir, de calculer, de dessiner un matériel nouveau, quasiment tout seul, à peu près à l'âge de 33 ans. Voilà. Donc les ballons de Placot, alors Albert Placot est donc connu et passé à postérité, entre autres, dans l'aéronautique, grâce à son nom qui a été donné au ballon. Donc ça a prouvé le succès de ses avancées. Donc on peut se demander quelle avancée représente-t-il pour l'aérostation militaire française, les ballons de Placot. Alors d'abord la création, donc le ballon de Placot, on l'appelait type L, parce qu'il bon, y avait un ballon français développé pour une personne qui s'appelait type H. Donc il va dessiner une forme optimale de la carène. Là, il y a des pionniers, par exemple, il pense à la notion d'aérodynamisme. Donc il va en partie peut-être s'appuyer sur la structure qui a été développée par Gustave Eiffel, le constructeur bien connu pour la Tour Eiffel, qui en 1909 crée une des premières souffleries aérodynamiques développées pour la locomotion aérienne qui est testée à Paris. Vous pouvez encore la visiter à Paris, à peu près une fois par mois, j'ai pu la visiter, c'est quand même assez impressionnant. Vous avez une navire qui est à peu près de 2 mètres, et vous avez un vent qui est à peu près envoyé jusqu'à 30 mètres secondes, et c'est une installation centenaire. Donc là, vous avez une vue d'un ballon. Alors, le ballon est vu de l'avant. Donc, vous avez en dessous la nacelle, l'avant du ballon. Et derrière, vous avez trois crêtes, ce sont les carènes du ballon. Donc, ces trois stabilisateurs arrière sont gonflés par le vent. Donc, c'est un phénomène de vent relatif qui gonfle les carènes. Et ça forme des gouvernails qui sont disposés à équidistance, à 120 degrés. Vous avez 360 degrés qui sont découpés. Et là, le ballon est dit autostable, donc il réussit à tenir dans l'atmosphère. Il est à peu près stable. Donc il s'oriente, il s'immobilise dans la direction du vent. Ainsi, il est moins secoué. Alors, ces dessins sont soumis, donc c'est une ébauche qui a été développée par le capitaine Albert Capot. Il envoie cette ébauche, ces dessins, à l'établissement de Chalet-le-Doubs pour pouvoir avoir leur accord. Et là, c'est le scepticisme. Donc, il se heurte un peu à un rejet de supérieur ministère hiérarchique. Je me demande quel est ce jeune appartenant d'une trentaine d'années qui pense révolutionner l'aérodynamique ou l'aérostation militaire. Donc, c'est le scepticisme. Et selon ces ballons, donc, il développe, il pense que le ballon peut être stable jusqu'à des vents de 25 mètres secondes, ce qui à l'époque apparaît totalement surréaliste. Ainsi, un équipage, un observateur français, pourrait mener sa mission à bien jusqu'à un vent de 90 mètres secondes. Donc, c'est presque un début de tempête, ce qui est totalement exceptionnel. Donc, c'est un scepticisme. Et on ne veut pas de son prototype. Alors là, vous avez un général de l'aéronautique militaire qui donne l'ordre à ce qu'on développe ce ballon. Alors, donc, il y a un premier ballon qui est assemblé, et ce ballon est testé par Albert Capot sur le terrain pendant 6 mois. Et on s'aperçoit que ce ballon s'use 2 fois moins vite que le ballon renard ou que le draken allemand. Donc, il y a la réussite du terrain. Et Albert Capot est affecté à Chalet-le-Doubs pour pouvoir développer des ballons. Pour pouvoir les construire et vérifier leur bonne réalisation. Là, je me répète par rapport à un PowerPoint, donc il est envoyé à Chalet-le-Doubs en 1915. Donc là, vous avez une vue d'artiste du ballon Capot. Donc là, avec deux couleurs, donc la notion de camouflage. Donc là, c'est une vue latérale. Donc vous voyez deux gouvernes sur les trois. Et en dessous, vous avez la nacelle qui est reliée par un système de câbles ingénieux ou astucieux jusqu'au ballon. Alors, la guerre des ballons, donc, c'est assez peu connu. Alors, ils sont confiés à l'hydrogène, c'est un système différent que l'utilisation du ballon à air chaud comme les montgolfières. Là, vous avez une vue donc, sur le terrain, vous avez des bonbonnes d'hydrogène qui sont acheminées à proximité du front pour pouvoir gonfler ces ballons. Alors, le ballon captif a un avantage par rapport à l'avion, c'est qu'il peut être stable, il peut rester à un temps donné pendant plusieurs heures au même point au niveau du front, ce que ne peut pas faire un avion par définition. Donc le ballon captif présente des avantages, alors même si on pense qu'il est donc plus facile à abattre par l'adversaire, il reste d'une manière pérenne sur un site. Et pensez un peu aux satellites aujourd'hui, où un satellite va pouvoir aller sur un site, mais de façon non permanente, il va pouvoir survoler plusieurs fois le même site. Vous avez une personne, un observateur, qui est emporté dans ce ballon captif, dans une nacelle, et il fait du renseignement. Donc il règle les tirs d'artillerie. Alors, le ballon est à peu près à l'altitude d'un kilomètre 5, donc 1500 mètres. Et vous avez déjà, avec ce cas d'altitude, on peut localiser le point de chute des obus et ensuite transmettre l'information par un système optique ou en lâchant des messages au niveau du sol qui doit être récupéré. Et ensuite en utilisant la TSF à partir de 1916 avec la bataille de la Somme. Donc on règle les tirs d'artillerie et on surveille aussi un secteur du front. Donc on va essayer de mettre de façon à peu près régulière un ballon le long du front pour pouvoir repérer l'adversaire, essayer d'anticiper sur une attaque, sur la concentration de troupes adverses. S'il y a un tir d'artillerie, c'est que ça va être prémonitoire avant une attaque. Donc là, il y a vraiment une notion d'anticipation et l'importance du renseignement. Donc vous avez donc à droite la vue d'une nacelle avec l'observateur. Il est quasiment debout dans une nacelle en osier. Et, devant lui, il a une carte, une paire de jumelles, je pense une boussole. Voilà. Et là, on est à partir de 1915, donc à partir de près du printemps 1915, les ballons vont être systématiquement équipés d'un parachute. Donc vous avez derrière un cylindre avec un parachute. Et à l'arrière du dos de l'observateur, vous avez un harnais. Donc le harnais est monté sur l'observateur, il est relié par un filin au parachute. Lorsqu'il voit un appareil qui s'approche du ballon, donc par exemple un appareil allemand qui va essayer de descendre le ballon, La frappe se passe en quelques secondes. Donc le ballon, l'adversaire va s'approcher, va tirer au départ avec des mitrailleuses, avec des balles qui vont essayer de perforer le ballon. Donc souvent ça va perforer le ballon, mais ça ne va pas le faire exploser. Donc vous avez des trous, l'hydrogène va un petit peu s'évacuer, mais le ballon ne va pas exploser. Ensuite, il va y avoir des balles explosives qui vont être développées pour pouvoir faire exploser le ballon. Et là, ça se passe en quelques secondes. Donc, je crois que j'ai un film après qu'on pourra voir. Le ballon explose et l'aérostier a quelques secondes avant de pouvoir sauter. Donc là, c'est l'urgence. Il voit l'adversaire s'approcher, il saute, il tombe, et vous avez le parachute qui se développe et il atterrit au niveau du sol. Donc à partir de 1915, même si ce sont des marins et des pionniers qui utilisent pour la première fois des ballons. Et donc l'aérostier peut survivre, tandis que le pilote, lui, en avion, ne peut pas survivre, donc il n'a pas de parachute. À partir de 17, les Allemands ont des parachutes, et l'état-major français a refusé, car il estimait que si on avait un parachute, donc on avait une capacité de quitter le combat, et donc on risquait. Donc l'appareil était quasiment voué à la destruction, donc on perdait un appareil, et le pilote, ne pouvait amener un peu moins d'allant, d'ardeur au combat. Ce qui fait que vous aviez peu de solutions, alors soit vous surviviez, vous arrivez à atterrir, vous battez l'adversaire, soit vous pouvez mourir carbonisé, soit vous pouvez être éjecté de l'appareil, soit vous êtes écrasé. Donc certains ont dit que l'aviation était une armée de planqués. On a estimé qu'il y avait à peu près 5500 personnels militaires de l'aviation qui sont morts pendant la guerre. Donc l'aviation était une arme assez réduite. C'est à peu près un taux de perte de 20%. Donc on est à peu près au même niveau que l'infanterie. Et à gauche, vous avez une vue d'un appareil photographique, donc la focale est à peu près de 300 mm, donc 30 cm, on va développer des focales jusqu'à 1,20 m. Donc pour pouvoir avoir vraiment un matériel de qualité. Alors pour pouvoir déplacer et pour pouvoir ramener, malgré un vent violent ou faire descendre le ballon assez vite avant qu'il soit battu par l'adversaire, on peut le protéger avec une DCA, une défense contre avion avec des canons qui sont dirigés à plus de 45 degrés, ce qui n'existait pas jusqu'en 14, et on va aussi développer des treuils motorisés pour accélérer la descente. Et donc vous avez des treuils motorisés sur des véhicules automobiles, et Albert Paco va en développer un à partir de 1915. Voilà. Donc après, vous allez voir un film, alors je pense que le son ne sera pas diffusé, mais je vais essayer de commenter en même temps. Voilà. Vu que c'est à partir de 1927 que le son est apparu, je vais être speaker. Donc là, vous avez une vue d'un ballon CACO, donc à peu près à partir de 1915-1916. Et là, vous avez une notion des dimensions. Donc le ballon fait à peu près 20 mètres de long. C'est un cupage à peu près de 800 mètres cubes. Et vous avez des fantassins au sol. Donc le fantassin de Soyard Royal fait à peu près 1,65 m. Donc ça donne une notion des dimensions. Alors, vite, ça se passe. Ça passe bien, c'est pas grave. Bon, moi, je respecterai les temps. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Donc c'est un succès international. Alors, le ballon type M d'Albert Caco est une réussite. À partir de 1916, il équipe à peu près toutes les aéronautiques militaires françaises. Donc toute l'aérostation, c'est quand même assez réduit. Alors il équipe aussi les marines de guerre françaises et aussi étrangères, donc britanniques et américaines à partir de 1917. Donc Chalet Meudon, qui au départ n'avait pas tenu compte des propositions d'Albert Caco, à partir de 1915, va construire des ballons. Donc en 1915, c'est 7 ballons qui sont équipés. En 1917, donc c'est à peu près 10 fois plus. Et en 1918, à la fin de la guerre, vous avez 320 ballons qui sont fabriqués par Chaillet-Meudon. Donc c'est vraiment un chiffre conséquent. Et à la fin de la guerre, vous avez à peu près 1000 ballons Caco qui ont été développés. Alors Albert Caco n'a pas déposé de brevet, donc il a fait don à l'État. Il ne voulait pas s'enrichir sur une invention qu'il a conçue, développée pour la défense nationale. Voilà, donc vous avez une vue de Chaillet-Meudon avec le hangar. Je vois que c'est l'hangar Y. Alors c'est l'édifice le plus ancien au monde, donc il est encore debout, qui a été développé dans les années 1880. Et donc en 1884, il a inventé le ballon dirigeable à France, qui est le premier ballon dirigeable au monde à avoir réussi à faire un circuit. Donc il est parti d'un point A. Il a fait une boucle, il est revenu à peu près un kilomètre, il avait utilisé des moyens électriques. Et en 1900, vous avez donc le comte Ferdinand von Zeppelin qui va faire un premier vol au-dessus de l'œil de Constance en 1900. Et là, vous avez donc les émissaires britanniques, donc on est en 16 et en 17, ils sont à l'intérieur de la structure d'un ballon. Donc vous avez le ballon qui est en caoutchouc et vous avez une structure interne qui n'est pas rigide mais avec des montants en caoutchouc un peu dur pour donner une certaine rigidité.
problème, là.
Non, vous avez juste à se projeter.
Il y a un peu d'azote.
Alors, il y a différentes variantes, hein, donc c'est comme pour l'Airbus, vous avez différentes variantes qui sont développées en fonction des besoins, car les caractéristiques sont différentes. Vous avez le type P qui s'adresse au navire de guerre, et là, vous avez une photographie, on est en 1918, vous avez un navire américain avec un ballon captif qui est relié. Voilà, donc vous avez le vent relatif, le navire qui avance, qui tracte le ballon. Voilà. Alors, pourquoi on utilise des ballons pour les navires? On prend un cas d'altitude et ça permet de faire de l'observation. Pour les convois, on va essayer de localiser les sous-marins allemands, donc c'est les plus beaux, donc c'est la guerre des convois, donc c'est la guerre totale, on essaye de battre l'adversaire d'un point de vue industriel. Et ça permet aussi de faire un repérage d'artillerie, donc vous avez des canons maritimes qui vont tirer pour essayer d'abattre l'adversaire. Encore plus tard, vous avez le type R qui est développé à la fin de la guerre, donc il est à peu près 28 mètres de long, c'est un coupage à peu près de 1000 mètres cubes, et ça permet d'emporter une charge plus conséquente, deux nacelles avec deux personnes. Donc à peu près à chacun 65 kg, c'est plutôt des poids légers. Voilà. Et en 1918, donc, vous avez les Britanniques qui sont très intéressés, alors vous avez différentes attaques, alors c'est un peu de répétition avant la bataille d'Angleterre de 1940, et vous avez à partir de 1915 des raids qui sont faits contre la capitale britannique, alors des raids de terreur pour essayer de faire peser au poids de la population civile le poids de la guerre, constituer une menace, ou le raid de terreur, donc avec des quotas et aussi avec des zeppelins. Donc c'est le cas contre Londres à partir de 1915. Et ça va être le cas aussi contre Paris, avec plutôt des zeppelins. D'ailleurs, on va utiliser la tour Eiffel pour pouvoir faire ces débuts de la guerre électronique. On va essayer de dévier, d'avoir un impact sur les émissions radio des Allemands pour pouvoir délocaliser les points de frappe des zeppelins allemands. On va changer leur repère. D'ailleurs, ils vont réussir. Alors, vous avez des ballons qui sont utilisés pour faire de la défense passive. Donc, vous avez des ballons, c'est vraiment une dimension très conséquente. Vous avez des filets qui font à peu près 300 mètres de large, donc des sortes de grandes lianes qui sont mises dans le ciel. Ainsi, donc, pour les raids nocturnes qui sont opérés de nuit avec des quotas allemands, ils vont se prendre en temps de le filet. Et pour pouvoir faire des frappes, ils vont devoir voler plus haut. Donc s'ils volent plus haut, ils vont être moins précis pour les frappes. Donc on ne sait pas si ça a vraiment eu un impact. Alors c'était plutôt utilisé par les Anglais et un petit peu par les Français. Alors, à fin 17, début 1918, Albert Cacot est vraiment une figure montante dans l'aéronautique, l'industrie aéronautique française. Il va jouer un rôle efficient à ses principes. Donc, quel rôle joue Albert Cacot dans la politique aéronautique française en 1918? Donc là, il est appelé par Georges Clemenceau. Alors, on doit dire Clemenceau et pas Clemenceau. On doit dire Breguet et pas Breguet, il n'y a pas d'accent. Donc, Clemenceau est arrivé au pouvoir et a été nommé en novembre 1917 les chefs du gouvernement, et sa mission c'est je fais la guerre. Voilà. Donc il doit mener le combat jusqu'à la fin, il ne doit pas y avoir de paix séparée. Et donc il nomme Albert Cacot le 11 janvier 1918 à un poste imminent dans le service aéronautique. Albert Cacot a 36 ans, donc de grandes capacités, mais ces grandes capacités impliquent de grandes responsabilités. Et on lui donne une mission, il faut dynamiser l'effort de rénovation technique et de production des avions, alors ceux qui ont des missions offensives, des avions de chasse et de bombardement. Donc cet effort a été lancé en 1917. Alors 17-18, c'est vraiment les années de développement de l'aéronautique, y compris par rapport au nombre d'appareils produits. Et en 1917, les efforts ont commencé, mais début 1918, ils ne sont pas encore vraiment efficients. Voilà. Donc on lui donne une mission redoutable, et il doit permettre à l'aviation française de disposer des matériels participant à la victoire finale. Donc il est à la tête de la section technique aéronautique. Alors, ben, c'est un point un peu précis. Elle est détachée à partir de 1916 du service de fabrication aéronautique dont on parlait Gaëtan Siaco. Voilà. Donc là, le service de section aéronautique assure la direction générale des fabrications confiée à l'industrie privée. L'armée ne fabrique pas elle-même d'avions. Donc ces avions ont été fabriqués à la suite du service de l'hiver à partir de 1909, donc des personnes comme Louis qui venaient de domaine. Et donc l'État, le gouvernement, essaie de dynamiser tout ceci. Donc vous avez une production de masse, et vous avez par exemple ici des entoileuses. Alors on est à partir de 1916 dans une usine, à l'arrière, on essaie d'être loin des bombardements adverses. Vous avez la structure de l'appareil, donc c'est un appareil qui est en toile et en bois avec un petit peu de métal. Alors c'est une production en partie faite et écrite par par des ouvrières. Et là, c'est une affiche de 1918, donc de recrutement. Alors, par exemple, aux États-Unis, vous avez l'oncle Sam avec Avant You. Et là, c'est en 1918, on fait appel aux Britanniques, aux Anglaises qui veulent fabriquer, participer à l'effort de guerre avec la construction d'appareils pour la maintenance et l'entraînement. Donc la mission d'Albert Cocteau est importante, donc, elle concerne l'industrie aéronautique française et aussi bah, celle des aviés, parce que l'aviation française de 1909 à 1918, hein, sans être le cocardier ou transier, est la première aviation au monde. Donc on fabrique en autosuffisance pour la France, donc quasiment 100 000 moteurs et à peu près 50 000 appareils, donc c'est totalement surréaliste aujourd'hui. Alors il faut à peu près 6 mois pour étudier et construire un prototype, il faut de nouveau 6 mois pour les essayer et être analysés au point, donc un an. Et après, il faut 3 mois pour appeler les usines et lancer le matériel. Donc à peu près tous les 1 an et demi, vous avez une nouvelle génération d'avions. Dans les années 50, par exemple, ma thèse porte sur l'aviation française et l'innovation technologique de 1945 à 1966. Tous les 4 ans, on avait une nouvelle génération d'avions. Et aujourd'hui, ça peut pas être tous les 20 ans. Donc, forcément, les budgets, les missions, les moyens, le contexte sont totalement différents. Donc le FTA est divisé en différents services. Donc vous avez la motorisation, les cellules, les hélices. Donc vous avez une spécialisation comme pour une mission pour pouvoir avoir un appareil de qualité. Et là par exemple vous avez les hélices. Alors Albert Cocteau donc, dirige d'un point de vue aéronautique pour l'industrie et il sert d'interface avec un homme politique. Donc c'est Jacques Lusumini qui a été nommé les sous-secrétaires d'État à l'aéronautique, militaire et maritime. C'est un poste politique qui a été créé en 1916. Donc vous avez toutes les semaines Georges Clemenceau qui a rendez-vous avec Albert Cocteau, et ensuite Albert Cocteau, avec M. Duménil, et M. Duménil, tous les mois, a un rendez-vous avec les responsables aéronautiques et les chefs industriels. Donc vous avez une estrade, un peu comme ici, vous avez M. Duménil qui est là, et chaque mois, il demande à nos industriels, il compare les chiffres qu'ils lui ont promis de fabrication, et les compare avec la réalité. Voilà. Et donc par exemple, moi je travaille sur une graphie de leur hypothèse, et leur hypothèse donc, a 26 ans à l'époque, il y assistait parce qu'il a développé l'hélice aérienne et l'hélicoptère avec Marcel Bloch, et en 1918 à 26-27 ans, il a son premier avion. Donc il a 25-26 ans, et il est raisonné par ses raisons parce qu'il faut pouvoir tenir ses engagements. Et là vous avez Albert Cocteau qui réussit à redresser la situation en quelques mois. Alors bon, certains l'ont présenté comme un homme providentiel, qui avait vraiment de grandes capacités. Alors, il a effectivement des capacités, il a un regard neuf, mais il bénéficie aussi d'un contexte favorable. Donc, alors j'ai pu écouter un témoignage d'Albert Cocteau de 1975. Alors, Albert Cocteau, à ce moment-là, a 95 ans, et il meurt un mois plus tard. Donc, vous avez, à partir de 1975, l'armée de l'air était pionnière, vous avez le service historique de l'armée de l'air, maintenant il n'existe plus, mais maintenant vous avez le service historique de la défense qui est à Vincennes. Et à partir de 1975, ils ont développé les témoignages oraux, parce que. En 1940, vous avez de nombreuses archives qui ont été prises par les Allemands. Alors l'armée de terre a conservé ses archives dans ses casemates, donc elles n'ont pas été prises. Et l'armée de l'air les a mises dans des canons. Les canons ont été pris par les Allemands, les archives ont été détruites. Ensuite, ces archives ont été amenées à Berlin. Et lorsque Berlin a été pris par les Russes, les Soviétiques, ont pris ces archives. Donc on a encore des archives qui sont à Moscou. Donc il n'y a plus beaucoup d'archives avant 1940. Donc on essaie de compenser avec des témoignages oraux. Dans les années 70, il y a encore des survivants. De cette époque. Donc j'ai écouté son témoignage quelques mois avant sa mort. Donc il bénéficie de l'efficacité de l'industrie qui est arrivée à un point efficace. Il arrive à bien animer et à faire une bonne coopération avec les services techniques parce qu'il y a une certaine pression du gouvernement. Il y a les connaissances techniques d'Albert Cocteau, donc qui est ingénieur. Il arrive à bien analyser les éléments du problème et à les résoudre, parfois en innovant par exemple pour la métallurgie. Il y a aussi un talent pour concevoir et faire produire l'organisation réactive. Normalement, au niveau parleur, vous avez son témoignage, je voulais résumer. Donc, dans ce témoignage, dans cet extrait, il dit l'importance de bien s'entourer d'hommes compétents, d'avoir des équipes réduites dans lesquelles on peut avoir confiance. Donc, être chef, c'est savoir déléguer. En partie. Donc, là, vous avez une artiste de 1918 où vous avez une production en chaîne. Donc, 1914, c'est une production artisanale, et en 1718, c'est une production efficace. Donc un tableau de production qui atteint un pic en 17-18. Donc en 1914, on avait une centaine d'avions qui étaient mobilisables. Alors, vous voyez, en août 14, on n'est qu'à 50 appareils, on essaie d'en développer. Alors, la difficulté, c'est que les usines n'existent pas vraiment. Enfin, c'est c'est des initiatives privées. Donc ensuite, il faut développer, il faut investir pour ne pas construire de plus grandes usines. Ensuite, il faut reculer, faire reculer ces usines pour ne pas qu'elles soient victimes de bombardements ou d'annexion des frontières. Et à partir de 17-18, vous voyez, là, les productions sont totalement phénoménales. En France, aujourd'hui, c'est plus tout à fait. Enfin, c'est plus peur. Même si le Rafale a fait des ventes à l'étranger, et peut-être on va vendre aux Indiens, le contrat n'est pas encore fait, peut-être que pendant une dizaine d'années, il faudra aussi sûrement peut-être des besoins. Mais aujourd'hui, on fabrique 11 Rafales par an, donc c'est un par mois. La fabrication est pas. Il est assez réduite, mais un Rafale aujourd'hui, c'est à peu près 150 millions d'euros, toute sa durée de vie. Et pendant la première mondiale, un avion de combat comme ça se passe, c'était à peu près 40 000 euros. Donc, si on multiplie les 40 000 euros avec à peu près 10 fois plus, c'est à peu près 400 000. C'est 40 000 francs or de l'époque, donc c'est à peu près 400 000 euros de profit. Donc par rapport à un Rafale qui fait 150 millions, on voit que le prix est pas plus bien. Un autre film. Donc après 1918, en 1919, Albert Caco va encore des nouvelles visionnaires et en 1919, il est le père fondateur du musée de l'air, donc ça s'appelle pas encore le musée de l'air d'espace, il parle de la création d'un conservatoire. Et donc en 2019, en fait, ça sera le centenaire du premier musée de l'air et de l'espace qui a été constitué au monde. Donc là, moi, c'est une grande joie d'avoir pu voir Aeroscopia donc, à Toulouse, un beau musée, moderne, avec des moyens et propres, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, aujourd'hui. Donc j'ai un. Donc le texte en 1919, donc c'est le texte pour la création du futur musée de l'air. Donc Albert Caco explique pourquoi c'est important, y compris pour la formation des ingénieurs. Donc à la lumière du passé, le présent c'est clair. Donc oubliez l'évolution suivie depuis nos jours où le premier homme vainquit les lois de la pesanteur sur l'utilisation rationnelle de la vitesse, saurait commettre un crime vis-à-vis de nos descendants, à qui nous devons compte de nos réussites, autant que de nos insuccès. La formation des ingénieurs d'une époque a sa base dans la connaissance des travaux de leurs aînés. Nous devons mettre à même les ingénieurs d'aérotique de l'avenir de prendre au contact avec la réalisation d'aérotique actuelle les leçons les plus fructueuses pour leur éducation. Nous avons donc le devoir impérieux de réunir les matériaux actuellement épars qui sont les témoins de nos efforts et de les présenter de façon à en dégager les lois qui ont fait augmenter les locomotions aériennes en temps. Donc là, en un texte, en fait, la première phrase est assez longue, tout est dit et tout est résolu. Donc il développe une politique de recherche dans les années 20, dans les années 30, il participe à la création des premiers instituts de mécanique d'études, donc c'est totalement visionnire pour pouvoir permettre à l'aéronautique française de redevenir première au monde. Donc il y aura des développements qui seront faits, mais c'est en 39-40, l'aviation française ne sera pas la première. En 1928, il est le premier à occuper le poste de ministère de l'Air. Au niveau du poste de ministère de l'Air, il est le premier ministre, il est le premier à être ministre de l'Air, et il crée le super-héros moderne, donc c'est l'École nationale supérieure de l'aéronautique, même si son ancêtre a été fait en 1900. Voilà. Alors dans les années 30, Albert Caco va de nouveau être nommé ministre de l'Air, ensuite il va démissionner en 40, et donc il passe à la postérité, alors il meurt dans les années 70, donc un âge conséquent, 95 ans. Donc il était considéré comme le plus grand ingénieur de France. Et donc après sa mort, vous avez un timbre qui est créé en 2001. Donc vous avez le ballon Caco, vous avez l'usine marémotrice de la Rance. Et sur le timbre, vous avez une vue d'un. Alors, je ne me trompe pas dans les termes techniques. Vous avez une vue du pont de la Caille. C'est un pont qui est au nord d'Annecy avec un large de 140 mètres de portée. Voilà, donc il passe à la postérité. Et par rapport donc, à la région toulousaine, vous avez donc à proximité, vous avez le terrain de Balma. Et à partir de 1923, vous avez une compagnie d'aérostés qui s'installe. Cette compagnie devient en 1934, donc création d'armée d'air, devient la 53e demi-brigade d'aérostation. Donc vous avez un grand hangar rigide, un grand hangar rigide pour pouvoir accueillir des ballons, avec une porte coulissante. En 1958, vous avez donc la base aérienne 280. Toulouse, Piriton, Palma, qui va ensuite disparaître. Et là, vous avez une plus récente de ce terrain qui est surnommée le Palma. Merci pour votre attention.